La 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 la. On arrête là ou on continue?
Sinon on fait toute l'interview comme ça.
On pourrait continuer longtemps.
Après si on fait toute l'interview.
Ouais, il faut qu'il me reste de la voix moi pour après les gars.
Ah ouais, c'est vrai.
Ça me dérange pas.
Petit lait avec du miel. Non, de la bière à ce qui paraît, c'est très bon pour la voix.
C'est super totalement inintelligent de faire ça. Mais tu vois, je le fais quand même, je suis complètement con, mais écoute.
Et bah mort au con. Mais non, mais on est avec Irvine.
C'est cela.
De Darcy.
C'est cela même.
Incroyable, à Alençon. J'aurais jamais cru dire ça un jour.
En la personne.
Darcy et Dagadette Jones à Alençon. Y a rien qui va. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va attendre.
C'est une bonne journée pour nous.
Mais oui. Et pas que. Et c'est pas fini. Mmh. Mais on est avec Darcy, qui sont à l'origine de deux albums, Tigre et Machine de guerre.
C'est ça.
Wouhou. Ça ne rigole plus. Mais selon vous, quelle est la principale évolution entre les deux albums et pourquoi ?
Le premier album, il était composé par moi et Clément, donc qui a la batterie. C'était un album quand même plus rock que punk. Et Machine de guerre, il a été composé à, on va dire, à 90% par Vincent qui a la guitare. Et là, on a fait quand même un beau virage vers le cupon, quoi.
Très beau virage. Hein,
ouais, ouais. on est parti vraiment sur nos vrais amours. Et c'est un album plus énervé, beaucoup plus énervé, et peut-être aussi plus mélodieux aussi dans les voix. Quand t'as Tigre qui avait un débit un peu rappé, et là, c'est quand même un peu plus chanté, un peu plus punk, voilà.
Et pourquoi avoir pris ce virage un peu plus punk ?
C'est pour le plaisir en fait. Enfin, vraiment, ça nous amuse beaucoup plus de faire du punk que du rock. On s'éclate dans cette musique-là et on se sent aussi meilleur dans cette musique-là et plus légitime. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris ce virage.
Avec Tanguy, on n'a pas réussi à remonter à vos débuts, à votre tout premier concert. Et pourtant, Google est ton ami, mais pas sur ce coup-là.
Yes.
Là, il nous a bien niqué, le con. Et c'était quand ? Et où votre premier concert ?
Alors, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que notre premier concert en mode professionnel, c'est-à-dire juste avant qu'on sorte le Tigre, c'était ici.
C'est vrai ?
C'était ici, c'était à la Luciole, à Alençon.
Il y a combien de temps ?
Il y a déjà un petit moment, parce que c'était juste avant Tigre, tu vois, donc ça doit être 2015, je dirais. Donc il y a peut-être 8 ans.
Oh, c'est ouf.
Ouais, c'était ici.
Ouf, pour la première fois à Alençon.
On jouait avec No One's Innocent. Ils sortaient Propaganda. Nous, on n'avait pas encore sorti le Tigre. Et c'était notre première date professionnelle ici.
Et du coup, qu'est-ce que ça fait de revenir ici après tant d'années ?
Je suis content doublement. Pourquoi ? Parce que la première fois que j'ai joué ici, j'avais deux côtes cassées. Et j'ai chanté dans un état lamentable avec des straps et des machins. Et j'ai souffert ma vie. Un vrai punk en plus. Con comme pas deux. J'avais pris en plus une belle caisse la veille et donc j'étais un peu fatigué sur scène. Bref, j'ai pas donné un concert exceptionnel. Donc là, je suis content de prendre ma revanche.
Je vais me rattraper.
On va faire la guerre comme il faut. Ouais.
Hâte de voir ça. Et du coup, votre premier concert, mais non professionnel.
Oh putain, là, honnêtement.
C'est celui-là que j'avais pas réussi à retrouver. Il y a peut-être des bribes, mais non.
Non, je suis incapable de vraiment te le dire parce que Darcy avait on était sur une autre formation avant qu'on fasse le Tigre et on s'appelait déjà Darcy comme des cons. On aurait dû vraiment changer de nom parce qu'on n'a pas du tout fait la même musique. Pas du tout les mêmes membres et tout. C'est juste que Darcy, on aimait vraiment ce nom de groupe, donc en fait, on a effacé la première version. Et honnêtement, je saurais pas te dire sur cette version d'aujourd'hui de Darcy lequel était le premier. Très honnêtement, je dirais sûrement un truc comme le Ferrailleur à Nantes, je sais,
okay.
Un truc comme ça, mais je suis
déjà,
même pas sûr.
Du coup, vous avez pas sorti votre album, mais vous jouez déjà au Ferrailleur.
Ouais, on a fait des belles dates, mais on a fait une grosse tournée avant de sortir le Tigre, on a fait une grosse tournée avec No One en fait, dans tout le Grand Ouest, et que des salles comme ça, que des smacks, donc pour le mettre le pied à l'étrier,
c'est bien plutôt formateur.
Luxe, quoi. Ouais, non, c'est luxe, c'est vraiment très luxueux. On n'a pas commencé par les cafés-concerts beaucoup, nous, en fait. On a de la chance, on est vraiment chanceux.
Ah, après, ça a peut-être du bon aussi de commencer par les cafés.
Bah, c'est ça, j'aurais bien aimé. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose. Et là, tu vois, on va le faire, en fait. On part au Québec dans une semaine et demie et on va jouer dans des cafés-concerts, chose qu'on n'a pas fait depuis des années. Ça va nous remettre vraiment.
On va y revenir juste après le Québec parce que Tanguy, il avait des bonnes questions.
J'ai pas de questions.
Et je vais finir, du coup, ce petit passage sur les dates. Selon vous, quelle est la plus grosse date que vous ayez faite, du coup pas la Luciole j'imagine en 2015, pas celle-là, la plus grosse date.
La plus grosse date en quelle année tu veux dire?
Non, la plus grosse date que vous ayez jamais faite, genre faisais référence à ta date à la Luciole qui était pas terrible de ce que tu dis.
Ah oui, ah tu veux dire d'un point de vue comment on a bien joué et tout quoi.
Ta plus grosse date en termes de personnes, en termes de ressenti selon toi, ta plus grosse date?
Il s'est passé un truc quand on a joué encore avec les grands frères de Tagada au Trianon, il y a eu un truc électrique qui s'est passé. Le public a dit oui tout de suite, c'est-à-dire que vraiment on a toujours peur quand on a un groupe qui fait une ouverture sur des salles comme ça, on se dit les gens ils vont rester à la buvette ils sont arrivés dès le début. Je dirais même que non, notre plus gros souvenir, notre plus gros kiff, c'était là, en avril, au festival On a plus 20 ans, à Fontenay. Ouais. Ils nous ont dit qu'en autant d'éditions, c'est la première fois qu'il y avait autant de monde dès le premier jour. Parce qu'on a, on a ouvert le festival, on a joué très tôt, on a ouvert le festival et on a ouvert les 4 jours. Et il y a eu tout de suite beaucoup, beaucoup de monde. Il faisait un temps magnifique, tout le monde était dehors en train de boire des bières et ils ont couru dès le premier morceau. Et ça, ça a été un, ouais, un super souvenir pour nous.
Mais du coup, par rapport à On a plus 20 ans, ça fait quoi de jouer avec d'aussi grands noms, enfin des noms mythiques en fin de compte?
Bah ça te remet tu vois, ça te remet un peu à ta place quoi, tu tu prends des tartes. Ouais, non mais c'est cool, tu prends des grosses tartes, en fait ça commence presque à devenir une habitude pour nous. On joue vraiment maintenant sur des super gros plateaux, ça devient habituel pour nous de jouer avec Massisteria, avec les Shérifs, avec Tagada, avec les Fatales. Nous ça commence à devenir une habitude, mais ouais, c'est formateur aussi quoi, de voir un peu comment les grands travaillent et pourquoi ils t'ont donné autant envie de faire la guerre aussi quoi.
Ok. Du coup vous avez signé chez Atom, chez le label Atom aussi, donc c'est formateur aussi, tout pareil que pour les concerts.
C'est
ou...
surtout un rêve en fait, franchement. Moi tu vois, j'avais 13-14 ans à l'époque, on achetait Rock Mag et Rock Sound avec le cousin, et dans le sampler, on va dire 75% des groupes qui étaient dans le sampler, ils étaient tous signés chez Atom. C'était vraiment ce qu'on aimait le plus quoi, c'était voilà, c'est les groupes, c'est Acme, c'est tous les groupes qu'on a kiffé étaient chez Atom, donc ça, voilà, c'est un rêve de gosse d'avoir signé chez eux, vraiment.
Et ben on va revenir sur un morceau qui m'a marqué la première fois que je l'ai écouté. C'est Darty.
Mais putain, j'avais oublié celui-là.
Ah ouais, non mais attends, mais plusieurs questions me viennent en tête. Pourquoi vous avez repris Capri aussi en même temps et parler de Darty du coup en même temps? Il y avait trop de trucs qui me venaient.
Ouais,
la première écoute était magistrale pour moi. J'ai pris
les claques. Je sais pas si vous connaissez l'histoire en fait. L'histoire c'est on a été quasiment attaqué en justice en fait par Darty. Parce qu'on a déposé notre nom à ce qu'on appelle l'INPI, c'est un endroit où tu déposes ton nom pour que personne te le vole. Et quand on l'a déposé, Darty a dit bah non, c'est mort, parce qu'en fait nous on a déposé tous les noms qui ressemblent de près ou de loin aux nôtres. Donc Darby, Darcy, Darchi, tout est à eux en fait, ils ont tout acheté. Et donc on a reçu un courrier gros comme ça en nous disant vous avez pas le droit de vous appeler Darcy, c'est hors de question, machin truc et tout. Donc on est parti sur un vrai problème juridique. Qui s'en est bien sorti au final. On a le droit de garder notre nom et de faire notre musique et de vendre des CD. Mais on s'est dit, voilà quoi, on va leur faire un petit fuck.
Petit big up.
Et un jour, bourré, on a commencé à chanter sur Capri, c'est fini. Et on a mis Darty, on était mort de rire. On a dit, vas-y, on change les paroles, on va se rendre la gueule. Et c'est voilà.
Parce que
c'est un délire.
Vous dénoncez pas mal de choses en plus dans ce morceau-là. La Fnac, elle y passe aussi.
Ouais, bah tu sais, hein, voilà, tu fais du punk. En général, t'es pas trop pour le capitalisme, mais pour les vendeurs de fours et d'électroménagers qui vendent des CD et des fours. Il y a un truc où je comprends pas, moi. Donc, on leur a mis un petit taquet, c'est normal.
Et du coup, le titre de votre album, donc c'est du deuxième album, c'est Machine de guerre.
Ouais.
Est-ce que ça fait référence au fait que vous ne lâcherez jamais rien, comme vous avez déjà pu dire précédemment?
Ouais, Machine de guerre, c'était on a écrit cet album vraiment dans un contexte où la guerre était omniprésente. Voilà, t'avais la guerre, tout le monde disait le Covid, on est en guerre.
Nous sommes en guerre.
On était en guerre aussi sociale, on était en guerre économique. Franchement, on était aussi en guerre financière avec tout ce qui se passait à la bourse. On est en guerre littérale quand tu vois ce qui se passe en Ukraine. Nous, voilà, le terme de guerre, il était un peu partout. Ça nous est venu comme une évidence de donner ce titre-là. Et puis, bah, comme tu dis, Machine de guerre, c'est un peu pour parler de nous et du public qui lâche rien quand on va faire un concert. Nous, on donne le maximum à chaque fois. Et le public, quand ils viennent, c'est quasiment le cinquième membre du groupe. Vraiment, ils jouent un rôle. C'est incroyable. Ils nous donnent une patate. C'est quasiment eux, le chef d'orchestre, tu vois, de Darcy quand on joue. Donc voilà, Machine de guerre, c'était un peu pour dire on est tous ensemble à faire la guerre, quoi.
Ouais, c'est ce que nous disait Nico. En fin de compte, pendant les concerts, il y a une certaine énergie qui se fait entre une énergie le qui vous est donnée par le public et vous qui donnez votre énergie au public.
Au public, oui.
Évidemment.
Bah ça, tu vois, à chaque fois qu'on voit les gars, les filles après le concert, quand on va à la buvette ou au merch et tout, on en discute et ils nous disent merci. Et je leur dis, mais non, c'est à nous de vous dire merci, vraiment, c'est vous qui avez mis la patate ce soir. Ouais, mais non, mais c'est vous qui avez... Non, c'est nous qui vous remercions. Et tu sais, on se prend la tête à dire, arrête de dire merci, non, c'est à toi de dire merci. Et voilà, non, mais c'est factuel. Le public, c'est ce qui fait, pour moi, c'est ce qui fait, qui donne le ton au concert. C'est pas forcément l'artiste
et
qui donne le ton.
Sans public, il n'y a pas d'artiste, et puis sans artiste, il n'y a pas de public.
C'est ça.
Oh, c'est beau.
Exactement.
C'est beau.
C'est de la poésie, putain.
Oh là.
Ah, j'ai la larme à l'œil.
Oh, fuck off. Allez, dans le morceau Marine, attention. La Marine.
Ouais.
Pourquoi la Marine? Wow. Dans le morceau Marine, à 2 minutes 28 précisément,
D'accord.
Je sais pas si tu vois de quoi je vais parler.
Non. Quoi, je l'insulte pour changer ? Non,
je sais pas. Ça aurait pu.
C'est possible.
Mais pas 2 minutes 28.
2 minutes 28, je l'insulte pas.
Vous
merde.
Vous lâchez un mythique tigala, tigala, tigala.
Ouais, bien sûr.
Tu peux me le faire celui-là en...
Tigala, tigala, tigala. Évidemment.
C'est beau ça, c'est
évidemment.
Beau.
On est d'accord que c'est inspiré des Berlinois.
C'est pas inspiré.
C'est copié.
Non, c'est pour leur faire un clin d'œil parce que c'est un hommage aux Berlus qui, pour moi, ont écrit le morceau anti-extrême droite le plus mythique et le plus enfin qui sera jamais égalé et qui aujourd'hui encore a besoin d'exister. C'est un truc de fou, donc évidemment qu'on a fait un morceau sur cette poufiasse, donc on n'avait pas le choix que de faire un petit hommage aux Berlus qui sont, voilà, pour nous ce morceau là c'est le morceau le plus important pour moi du punk français.
Ouais, j'avais la petite question qui suivait, mais je pense que tu y as un peu répondu. Si vous devrez garder un morceau des Berlus noirs, ça serait lequel?
Oui, c'est Porcherie, il y a même pas à réfléchir. C'est assez ouf parce que ce morceau, le live à l'Olympia là, la vidéo YouTube ou quoi, à chaque fois que je la mets, mais je vous jure, ou même quand je la mets dans la voiture et tout, à chaque fois j'ai les poils. C'est un truc de fou, je dis putain, ça marche à tous les coups, ça va faire 507 fois que je l'écoute et 507 fois j'ai des frissons, c'est exceptionnel.
Viva Bergata, je crois que c'est, ouais, c'est celui-là, je l'ai en vinyle, la première fois que je l'ai trouvé dans une brocante, ouais, à 5 balles.
D'accord.
J'étais comme un ouf.
Tu m'étonnes.
J'étais comme un ouf. Et celui-là, du coup, à chaque fois que je l'emmène avec moi quand je fais des prestations, il est tout le temps avec moi.
C'est bien.
Et dès que je le joue,
ah oui.
T'es comme ça, hein.
C'est exceptionnel.
Je sais pas ce qu'il fait sur les gens ce morceau-là, mais c'est incroyable.
Je pense qu'ils ont joué leur vie quand ils ont fait le morceau. Enfin, t'as l'impression qu'ils, c'est comme s'ils jouaient la dernière fois un morceau. Ces mecs-là, à chaque fois, sa voix, elle est au bout du bout. Laura, n'en parlons pas, quoi. Le mec, quand il joue la guitare, sa main, c'est une mitraillette. Et donc, non, c'est normal. C'est normal. Il y a un truc électrique. C'est indétrônable, les Berlus. Indétrônable.
Et je pense que c'est mon morceau préféré de Darcy, j'espère comme beaucoup, peut-être pas, Viens chercher Pogo.
Ouais, on nous le dit souvent, En général, c'est les énervés, hein, qui choisissent celui-là. C'est les plus énervés dans le public qui nous disent que celui-là, c'est leur préféré.
Mais déjà, grosse dinguerie, et il faut savoir que j'adore No One Is Innocent.
Yes.
Donc
ça matchait comme il faut, quoi.
Et dès la première écoute, j'ai tout de suite reconnu, ouais, Kevin. Je dis ah là là.
Non, on en est content.
Et comment ça vous est venu du coup ce feat du coup avec No One Is Innocent? Votre rencontre, parce que du coup vous avez fait beaucoup de premières parties.
Bah c'est ça.
C'est quoi votre histoire avec No One?
Notre histoire, c'est qu'on avait signé sur le label Very Records à l'époque et aussi chez le tourneur Very Show. Enfin ils étaient ensemble, quoi. Et ils nous ont proposé tout de suite, quand ils ont entendu nos titres, on n'avait toujours pas sorti d'album encore une fois, hein, et ils nous ont dit « bah on veut vous mettre avec No One Is Innocent pour sentir la température, voir comment Darcy va être pris par le public français ». Et No One, c'était l'évidence, tu vois, enfin, on se dit « putain, c'est du rock en français, un truc énergique qui patate », c'était le bon choix. Donc on est parti tout de suite sur 6 ou 7 dates ensemble et on ne se connaissait pas. Et humainement, ça a marché tout de suite, on s'est éclaté avec toute l'équipe, même... tout le monde, je veux dire, même un technique. Maz, qui était le gars qui faisait la façade, le son, c'est lui qui a enregistré nos albums, quoi. Tu vois,
okay. Donc on en est revenu à ça. Donc des trop bonnes rencontres, du coup.
Ouais. Et donc c'était l'évidence de faire un titre ensemble, quoi. Il n'y avait même pas à réfléchir. Et quand on joue sur scène ensemble, celui-là, en général, c'est...
Il se passe un truc. C'est quand la prochaine date, du coup, avec No One et Darcy?
No One, ça dépend de, voilà, quoi, de ce qui se passe pour eux, quand est-ce qu'ils vont être à même de remonter sur scène, j'imagine, fin 2024, un truc comme ça. Ça, à mon avis, ne sera pas avant 2024-2025, quoi, ouais. Je pense.
Mais c'est pareil, du coup, parce que là, vous partez au Québec, mais vous partez combien de temps, du coup, au Québec?
On part... on n'a que 4 dates, hein. Donc clairement l'équipe, moi je pars un petit peu avant parce que je suis un branleur et que je vais profiter d'abord un petit peu là-bas avec mon épouse, quoi, et je vais me faire tatouer et tout machin parce qu'il y a mon tatoueur depuis que j'ai feuilleté un tatouage magazine, pour moi il y a le meilleur tatoueur au monde qui est là-bas, je suis trop heureux, je vais enfin me faire piquer par ce mec là, je suis trop heureux. Bref, il s'appelle Ian Black, pour moi c'est le mec qui a révolutionné le tatouage moderne, c'est lui qui a fait que le tatouage c'est pas seulement des portraits de Johnny et des têtes de loup et des tribales, quoi.
Qu'est-ce que t'as contre Johnny?
J'ai rien contre Johnny, je suis pas fan de ses tatous, quoi, mais voilà je vais me faire tatouer par lui. Et par contre les gars, eux, on a 4 dates, ils viennent littéralement 5 jours, donc ils vont être cramés, quoi. Il y a le décalage horaire. Hop, ils arrivent. Déjà, ils ont dit, venez, on va se faire tatouer dès qu'on arrive tous ensemble. Je dis, oui, tant qu'à faire, soyons cons jusqu'au bout, quoi. Et ensuite, c'est 4 dates, on est dans le camion, on tourne, on joue, ils rentrent. Et après, ils retournent au taf aussi, les gars. Attention, parce qu'il y en a un qui est dans le BTP, un qui est chauffeur poids lourd et un qui est à l'usine. Donc non, c'est sport. Ce qui va se passer, c'est sport. Ouais, ouais, c'est des vacances en vrai. C'est des vacances.
Ah, du coup, ils sont obligés de poser une semaine.
Ils ont posé une semaine. Ils ont posé une semaine, mais tu vas pas te plaindre, hein, tu vois. Je veux dire, c'est énorme. Tu as la chance de jouer outre-Atlantique. Il y a peu de groupes ont eu cette chance. Donc nous, c'est une opportunité qui nous met le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. C'est trop bien, trop bien. On a trop
hâte. Ça vous est venu comment, du coup, cette opportunité?
C'est Nico, c'est Nico de Tagada, tout simplement. Il me dit, j'ai peut-être un super plan pour toi. On a des copains au Québec qui cherchent à venir un jour en France jouer. Donc le truc, ça pourrait être de faire un échange, aller les voir, et puis ensuite on va les faire venir en France. Le groupe s'appelle Code 41, donc on va jouer avec eux à Montréal, et ils vont revenir en France, à mon avis, mars, avril, et ils vont faire 5-6 dates. Voilà,
c'est du coup en France. Et...
En France, et c'est un groupe de Quepons qui chante en français aussi, donc ça a vachement de sens d'être ensemble, c'est trop cool.
Oh ouais, c'est chouette.
Ouais, okay. Ouais. Très beau projet.
Comment tu dis
Code 41, c'est vraiment les deux nombres collés. Je vais leur demander à quoi ça correspond, non, parce que je comprends pas, il doit y avoir forcément une histoire.
Si un jour ils passent dans le secteur et
on aura la curiosité, du coup.
Bah ouais, carrément, carrément. Apparemment, c'est des furieux. Hein.
C'est des furieux.
J'ai cru comprendre que les after vont être compliqués là.
C'est ce qu'on aime.
On arrive, je pense que c'est bon, on est chaud patate.
Moi, j'ai plus de questions.
Bah, comment ça, t'as plus de questions?
Je vous inspire pas, putain.
Putain. Ah, bah, on a fait vraiment un très bon tour.
Mais c'était chouette, carrément. Merci les gars, c'était vraiment cool.
Incroyable. Merci à vous.
Maintenant, mais je vais le redire, hein, comme avec Nico, hein, il faut venir les voir. Parce que Darcy, ça va être chaud patate. Hein.
On est d'accord, on est énervé là. C'est notre dernière date en France.
En France, on est
chaud.
C'est la revanche en plus.
C'est
la
exactement. C'est double dose là.
Si vous venez pas et que vous aimez Darcy, vous manquez quelque chose.
On est d'accord.
Merci à toi, Irvine.
Merci à vous deux, les gars. C'est cool.
Merci de nous avoir écoutés. Force à Radio Clip. Public.
Et du coup, petite dédicace à la Marine.
Allez.
Allez, on est mis sans père comme il faut celle-là.